Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. Plus de 400 crises humanitaires majeures se produisent autour du monde chaque année, causant la mort de plus de 100 000 personnes et touchant directement plus de 120 millions d'autres à l'ANAP 2018. Ces crises sont naturelles ou causées par l'homme. Depuis plus de 150 ans, l'aide de la communauté internationale aux personnes touchées par ces diverses crises à caractère humanitaire a été guidée par des principes clairs et concis. Aujourd'hui, nous allons discuter sur les principes humanitaires. Quels sont ces principes humanitaires et leur signification? Quelles sont les conséquences d'une absence des principes humanitaires pour les humanitaires et les personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire? Quels sont les droits et devoirs des organisations humanitaires, tout comme les autorités et les organes selon les droits internationaux humanitaires? Je suis Rafika Taher à la présentation. À mes côtés, Bonnie Augustin, chargée de programme à l'ONG Agir Plus, et de M. Joshua Tonko, chargé de l'accès humanitaire au Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, pour discuter et répondre à ces grands points et à bien d'autres sur le sujet. Les principes d'humanité établissent quelles sont les conditions acceptables dans lesquelles l'action humanitaire peut être fournie en toute sécurité au profit des populations et des territoires affectés par les violences et les conflits armés. Alors, nous allons tout d'abord commencer avec vous, Monsieur Augustin. Quels sont ces principes humanitaires et leur signification?
Bonjour et merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous entretenir sur des sujets aussi important que les principes humanitaires. Alors, les principes humanitaires sont au nombre de quatre majeurs qui sont entre autres les principes d'humanité, indépendance, l'impartialité, la neutralité. Et qui parle de principes d'humanité fait allusion à la mission première même de l'aide humanitaire qui permet de soulager la souffrance des populations et donc de sauver les vies des personnes exposées lorsque nous sommes dans une situation de crise ou conflit. Pour ce qui est de l'impartialité, il faut comprendre que ce principe permet, entre autres, que l'assistance que les humanitaires offrent, voilà, est seulement fournie sur la seule base des besoins identifiés, c'est-à-dire sans distinction liée à l'appartenance religieuse, politique ou ethnique. Et donc, pour ce qui concerne les principes de l'indépendance, il faut comprendre que pour nous, acteurs humanitaires, nous ne devrons pas nous aligner ou faire allusion à la politique nationale des pays dans lesquels nous sommes. Voilà, nous sommes carrément indépendants et nous n'alignons pas aux tests qui peuvent influencer la prise de position éventuelle. Et donc, ce qui permet de terminer avec le quatrième principe qui est la neutralité. Pour dire que lorsqu'il y a un conflit ou une crise, nous n'avons pas de position à prendre en termes de tension. Donc, nous devons être neutres et viser le principe premier qui est sauver des vies en toute neutralité. Donc, c'est ce qui permet de pouvoir avoir accès, voilà, à toutes les parties prenantes et pouvoir atteindre les personnes qui sont dans les besoins. Donc, entre autres, pour ce qui est des principes humanitaires, c'est ce que nous pouvons dire.
Qui est-ce qui garantit ces principes?
Ce qui garantit les principes humanitaires, en premier lieu, je dirais que c'est leur respect. Le respect de ces principes-là donne foi à ce que nous pouvons atteindre la mission pour laquelle nous sommes là.
Monsieur Joshua, bonjour. Mm-hmm. Parmi ces principes, lequel est le plus important dans l'assistance humanitaire?
Tous les principes sont assez importants. Ils sont clés pour notre travail là-bas sur le terrain. Comme mon collègue l'a dit, le principe de humanité fait allusion à vraiment alléger un peu la souffrance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est au centre de notre travail sur le terrain. Maintenant, on parle de la neutralité, l'impartialité aussi et l'indépendance. Tout ça aussi vient pour appuyer et supporter le travail que nous faisons sur le terrain, parce que sans ça, on va avoir des risques sécurs, des risques de protection du staff, mais aussi des risques de protection des participants au projet, si je peux dire. Donc, tous les principes sont assez importants et assez clés. Et on doit les respecter à 100%.
Vous nous avez parlé de quatre principes, à savoir la neutralité, l'impartialité, l'indépendance et l'humanité. C'est ça. Et comment est-ce que ces principes humanitaires sont perçus par les humanitaires eux-mêmes?
Ce que je peux dire par les humanitaires, c'est comme je l'avais dit, c'est au centre de notre travail. Donc, c'est aperçu vraiment c'est notre manuel de travail. C'est au centre de notre travail. Sans ça, on peut pas y travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on passe du temps à former le staff, tu vois, à augmenter la capacité de nos partenaires aussi et l'ensemble de la population pour respecter ces principes humanitaires, mais c'est la Bible, si je peux dire, d'un agent humanitaire lorsqu'on est sur le terrain pour faire du travail humanitaire.
C'est très bien dit, hein. En tant qu'acteur humanitaire, les principes humanitaires sont, comme il a dit tantôt, la Bible et le Coran, je veux dire, c'est la boussole. Donc un acteur humanitaire qui veut répondre véritablement à l'impératif humanitaire doit s'aligner, je vais dire, obligatoirement sur ces différents principes-là. C'est, je dirais, la condition sine qua non d'être sûr que nous pouvons toucher du doigt les besoins réels des populations qui ont subi les crises ou les catastrophes.
Et comment sont-ils perçus aussi par ces populations qui ont subi ces crises humanitaires?
La perception des populations... Il faut dire que c'est nous, en tant qu'acteurs humanitaires, qui devrions veiller sur, d'abord même, je dirais, la compréhension de ces principes. Parce que ce n'est pas évident. Quand il y a une crise ou une catastrophe, les populations sont alarmées. Ils attendent tout de suite que des personnes viennent à leur secours. Et donc, en tant qu'acteurs humanitaires, lorsque nous répondons présent après une crise, et lorsque nous expliquons cela, donc, le bien fondé déjà crée cette confiance. Parce que vous comprenez tout de suite que plusieurs personnes peuvent être présentes sur un terrain de conflit, mais les humanitaires se différencient des autres acteurs qui potentiellement peuvent être présents. C'est-à-dire, il peut y avoir une bonne volonté dans une communauté qui est dans un conflit qui peut aider. Mais la façon dont cette personne-là va adresser l'aide est carrément différente de l'approche que les humanitaires vont tout de suite, déployer. Donc, du coup, les principes humanitaires permettent d'abord de mettre en confiance ces populations-là et d'être sûr que tout ce qu'elles feront avec les acteurs humanitaires sera dans le respect strict de ce que je vais appeler la dignité.
Je pense que je peux ajouter que l'acceptance au niveau de la communauté n'est pas garantie. C'est quelque chose qui se travaille. Donc, comme mon collègue vient de le dire, c'est un travail de vraiment avoir la confiance de la population et tous les parties prenantes, tu vois, avant de même apporter l'aide. Parce que si je viens chez toi et tu ne me connais pas, tu ne vas pas avoir tout de suite une confiance à ce que je vais dire ou bien ce que je vais vous apporter. Donc, il faut qu'on le travaille en discutant avec toutes les parties prenantes et le fait savoir qu'on est là uniquement pour les besoins qui sont là. Et avec ça, maintenant, on peut commencer à y travailler sur tout ce qui est l'acceptance envers nous, envers le travail que nous faisons sur le terrain.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces populations acceptent finalement l'action humanitaire ou bien toujours une certaine méfiance qui se fait remarquer sur le terrain?
Je pense qu'en tout début, oui, il y a toujours cette méfiance. C'est dans n'importe quel conflit, là où il y a les besoins, on essaye d'être là, mais en premier temps, il y a toujours cette méfiance envers l'aide humanitaire. Il y a certaines choses, certaines idéologies que peut-être les pays qui fournissent de l'aide, qui nous supportent, qui nous soutiennent, aussi peut avoir des idéologies qui ne conforment pas avec la population, ce que la population veut. Donc, avec d'autres parties prenantes, il peut avoir cette méfiance à cause de certaines choses comme des idéologies qui viennent peut-être de l'Occident et tout ça. Donc, c'est à nous aussi de laisser ces idéologies-là de côté et vraiment être face aux besoins qui sont là, réels, concrètement, qui sont là sur le terrain. Donc, en premier temps, oui, ça devient un peu compliqué comme je l'ai dit, avoir l'acceptance et la confiance de cette population. Mais au fur et à mesure, on y travaille et on arrive à un moment donné où on a la confiance de la population pour pouvoir apporter de l'aide.
Augustin, vous voulez réagir? Je vous ai vu prendre note ou bien je continue avec la prochaine question.
Juste un mot. parce que ce que mon collègue Joshua dit est important, parce que quand il y a une crise ou un conflit, tout de suite, il y a déjà des idées qui naissent dans la tête des acteurs, des parties prenantes au conflit. Que ce soit les populations dans le besoin, que ce soit les acteurs humanitaires, que ce soit les autres parties prenantes, il y a des idées qui naissent. Mais, étant donné que je vais dire l'aide est adressée aux personnes affectées, donc les personnes vulnérables, tout de suite, ils se disent ok, j'ai l'aide de telle, je vais dire bailleur, je vais le dire ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une idéologie politique derrière? Est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir faire, je vais dire, utiliser le couteau à double tranchant? Donc, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser dans la tête de ces personnes-là. Donc, du coup, comme on l'a dit tantôt, du coup, l'importance du respect strict des principes que nous avons ci-dessus mentionné afin de pouvoir créer ce que on a dit tantôt, l'acceptance. Parce que quand il y a l'acceptance, vous verrez que ces populations-là seront tellement, je vais dire, rassurées que la délivrance de l'aide sera facilitée et les objectifs peuvent être atteints le plus facilement possible.
Parlant d'acceptance, aujourd'hui, à quel degré est-ce qu'on peut dire que la population accepte finalement cette aide humanitaire par comparée aux, par exemple, 10 années précédentes? À quel niveau, à quel degré d'avancement est-ce que la population vous accepte finalement?
Pour répondre à ces questions, en premier temps, on est là sur le terrain et on mène des activités. D'abord, il faut mener les activités pour gagner la confiance et l'acceptance de la population. En premier temps, parce que la population est dans le besoin, on passe à une phase où la population tolère, tu vois, les humanitaires. Ouais, parce que ouais, on vient avec des biens, donc eux, ils veulent ce bien-là.
À quel degré aujourd'hui?
Aujourd'hui, je peux dire...
D'avancer, s'il y a des avancées qui sont constatées.
Oui, je pense qu'il y a, pas mal de travail qui a été fait. Pour, raison pour laquelle je peux dire que notre acceptance a beaucoup augmenté par rapport à les années précédentes. On arrive à aller dans des endroits assez difficiles et on travaille avec la population pour mener nos activités qui augmentent aussi notre acceptance. C'est les besoins aussi qui sont énumérés par ces populations-là qu'on prend en compte pour livrer un peu l'assistance. Donc, à travers tous ces différents canaux, tous ces différents mécanismes, on arrive à augmenter notre acceptance au fur et à mesure et on va continuer à y travailler.
Quelle est la place qu'occupent ces principes humanitaires dans l'établissement et le maintien de l'accès aux populations touchées, que ce soit dans le cadre d'une catastrophe naturelle, d'un conflit armé ou d'une situation d'urgence complexe?
Oui, ces principes sont, comme on l'avait dit, ils sont au centre de tout ce que nous faisons et ça garantit la protection de nous, nos staffs et la population quand on passe sur le terrain. Sans ces principes-là, il y aura pas mal des incidents sur le terrain et ça va nous coûter beaucoup. Donc, par le respect strict de ces mesures, de ces principes humanitaires, on arrive à acheminer de l'aide dans les endroits assez difficiles. Parce que si on n'est pas neutre, dès un point de contrôle, on va nous arrêter. Si on n'est pas neutre, dès qu'on arrive et on commence à faire les distributions qui ne suivent pas les critères qu'on a déjà énumérés, on va avoir des catastrophes dans les endroits de distribution. Donc ça, c'est l'exemple que je peux donner qui montre que le respect strict de ces principes humanitaires garante un peu la protection de nous, nos staffs et les bénéficiaires.
Monsieur Augustin?
Étant donné que en termes de crise et catastrophe, vous comprenez tout ce qu'il y a un conflit qui est en jeu. Donc vous voyez que l'importance du respect strict des principes humanitaires seul peut permettre de faciliter cet accès-là. Ça, je pense que c'est pas beaucoup à débattre parce que quand ce n'y est pas, déjà, ça crée des idées et tout de suite, nous pouvons être, comme il a dit tantôt Joshua, des victimes. Parce qu'en porte des aides, normalement, nous devons avoir l'accès total. Mais si ce n'est pas bien compris et respecté, nous pouvons être victimes et notre sécurité aussi, et ceux même des bénéficiaires peuvent être en danger. Chose que nous, en acteur humanitaire, ne souhaitons vraiment pas.
Et quel est l'enjeu de l'action humanitaire basée sur les principes humanitaires?
L'enjeu des principes humanitaires, d'abord, je vais dire que il est majeur parce que si les principes humanitaires n'avaient pas existé, vous osez imaginer peut-être une seconde est-ce que l'action humanitaire même allait être possible? Parce que ça allait créer, c'est ce que je vais dire, peut-être une confusion pas possible. Alors que les principes étant, je vais dire, la base de toute intervention. Ce qui veut dire, peu importe l'organisation, qu'elle soit locale ou internationale ou je dirais quoi d'autre, en se basant sur les principes humanitaires, nous sommes sûrs que les actions peuvent être coordonnées. Il n'y a pas risque qu'un acteur expose en autre par ses interventions un autre acteur. Donc il y a une uniformité et une cohérence dans l'adresse de l'aide que nous pouvons fournir. Donc vous voyez tout de suite que l'enjeu des principes humanitaires est d'un niveau véritablement très, 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 très élevé et important.
Donc, M. Augustin, dites-nous quelle est l'importance, enfin, les conséquences de l'absence de ces principes humanitaires-là.
En imaginant, je vais dire une seconde que ces principes n'existent pas. C'est-à-dire, une organisation X, dans un conflit Y, peut se libérer de sa propre volonté pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, entre acteurs déjà, ça crée ce que je veux dire, il n'y a pas de coordination. Donc, il y a déjà des conflits qui vont naître tout de suite ici, alors que nous partons répondre dans des situations de crise et de conflit. Donc, nous-mêmes, en apportant ce qu'on veut dire, le bien-être, en voulant sauver des vies, on peut les exposer, les sauver, s'il n'y a pas de principe humanitaire qui encadre, qui régit un peu les interventions. Donc, c'est-à-dire, les parties en conflit, d'abord, eux, personne ne comprendra rien. Et donc, du coup, ça va créer, je veux me dire, un autre conflit dans le conflit. Et ça va créer plus de désastres que de solutions. C'est ce qui vient à l'esprit tout à l'heure pour dire que s'il n'y avait pas de possibles humanitaires, l'action humanitaire n'allait pas peut-être exister. Et donc, du coup, les conflits allaient persister. Et donc, vous voyez que les populations vont être toujours exposées. Et puis, bon, les vies vont toujours nous échapper.
Une autre réponse, Monsieur Joshua.
Oui, je pense qu'en allant dans le même sens que mon collègue, il y a d'abord au niveau de coordination. Oui. Dès qu'un acteur fait la moindre des erreurs sur le terrain, ça impacte aussi les autres acteurs. Deuxième chose, c'est aussi la population. Dès qu'on fait des erreurs, le principe de ne pas nuire c'est pas respecté. Et donc, maintenant, on met la population elle-même en danger. La troisième chose, que les parties prenantes même, dès qu'on fait les erreurs, ça va aggraver le conflit qui est déjà là. Et nous aussi, nous ne serons pas en sécurité. Donc, mais s'il y a des principes qui sont là, ils sont vraiment respectés, ça amène la meilleure coordination de l'aide humanitaire, et on touche là où on doit toucher avec l'aide humanitaire. Je donne un exemple. Si, en faisant une évaluation sur le terrain, je n'ai pas la confiance de la population, ils ne me disent pas qu'il y a un pont qui est cassé à 5 km d'ici pour aller à la prochaine village. Moi, je fais mon évaluation, je retourne au bureau, et maintenant j'envoie un camion avec de l'aide pour ce village-là. Mais en plein milieu de la route, il y a le pont qui est cassé, le camion ne peut pas avancer. Sans le principe humanitaire, la sécurité de cette camion, encore déjà, ce n'est pas garanti. Okay? L'acheminement de aide vers l'endroit aussi n'est pas garanti. La protection des individus qui sont dans ce camion aussi n'est pas garantie, parce qu'on a négligé pas mal de choses. Donc c'est pour cela, c'est important, juste à travers cet exemple d'une seule camion, on voit que c'est l'absence de principe humanitaire bloque carrément l'aide humanitaire.
Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Augustin? Oui, allez-y.
Merci. C'était pour dire que, en un mot, s'il n'y a pas de principe humanitaire, tout de suite l'aide devient inefficace. Oui, l'aide devient inefficace, et comme il a pris l'exemple pratique, on va aider, le pont est cassé. La bonne intention de départ est là, mais les populations n'ont pas reçu l'aide. Donc l'aide devient inefficace et du coup l'accès est réduite, et la sécurité des personnes encore, je vais dire, la vie des personnes qui acheminent l'aide est en danger, parce qu'elle peut être plus possible. Et l'exemple concret, comme il a dit, quand il y a l'acceptance, c'est ces populations-là même qui vous donnent la façon dont on peut acheminer l'aide en toute sécurité. Et l'exemple est légion dans ce cas-là, parce que, étant donné que nous ne vivons pas avec eux au quotidien, vous voyez que le contexte hier peut ne perdre le contexte juste demain. Parce que d'hier aujourd'hui, les choses qu'on a vues hier peuvent changer pour une raison ou une autre. Donc, quand il y a l'acceptance, je vous dis que avec la stratégie que les acteurs mettent en place en haute la stratégie de remonter des informations sur le numéro vert, vous verrez que les populations vont vous appeler pour dire telle organisation, voici ce que nous sommes en train de subir, donc il faut y prendre garde, donc voici ce qu'on souhaite que vous fassiez pour que l'aide puisse véritablement être efficace et tout ça. Donc pour dire que s'il n'y a pas de principe, en un mot, l'aide est inefficace.
À part l'insécurité, quel autre impact ces conséquences peuvent avoir sur les populations?
Sur la population, quand l'aide est inefficace premièrement, c'est-à-dire elle n'est pas adressée à temps, parce que voilà, j'avais oublié peut-être ce petit mot qui est important là. Mm-hmm. Quand il y a une crise ou une catastrophe, le temps il compte. Parce qu'on ne mesure pas l'ampleur de chaque personne impactée par la crise. D'autres ne peuvent pas attendre plus de quelques minutes ou quelques heures. Donc, aussitôt que l'aide est administrée très rapidement, on sauve des vies, parce que c'est aussi ça. Nous voulons sauver des vies, des populations. Donc, s'il n'y a pas ces principes en termes de... j'avais dit que l'aide devient inefficace et la sécurité des personnes est en danger, vous voyez que tout de suite, on perd des vies des populations. Donc, du coup, une vie, il n'y a pas un autre moyen, s'il est perdu, de pouvoir ramener cette personne en vie.
Monsieur Joshua, on dit que ces principes humanitaires sont parmi les plus anciennes références régissant l'action humanitaire, tant dans son caractère fondamental que dans son déploiement pratique. Est-ce qu'il faut vraiment avoir foi en ces principes humanitaires?
Je dirais oui, à 100%. Il faut vraiment avoir foi à ces principes humanitaires, parce que c'est ça qui guide, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui fait la liaison entre nous, la population, les parties prenantes, les bailleurs, tout. Ça c'est vraiment au centre de notre travail. Donc il faut vraiment absolument avoir foi dans ces principes humanitaires. Je viens encore avec des exemples. Parlons un peu du principe de l'impartialité. On prend l'exemple de notre camion toujours. Notre camion est bien arrivé sur la site. On a coordonné bien et on a maintenant la population qui arrive pour sur le site de distribution pour prendre des biens. Mais maintenant, si moi, en tant que distributeur, en tant que travailleur humanitaire, vois une connaissance que je connaissais depuis et je lui glisse, tu vois, une kit, par exemple, et les autres voient, je suis sûr que dans moins de 5 minutes, il y aura un cafouillage là-bas. Parce que les gens voient que, oui, voilà, on donne à quelqu'un qui n'est pas sur la ligne et maintenant, on perd la confiance. Peut-être il y a des enfants, il y a la population qui souffre et voit le camion qui est là. Peut-être ils vont maintenant cibler le camion parce que on ne le fait plus d'une manière ordonnée. Donc moi, ma sécurité n'est pas garantie, la sécurité de la population n'est pas garantie, l'aide n'est pas distribuée. Je suis redevable vers le bailleur. Ok, donc il y a aussi tout ça qui devient compliqué quand on ne respecte pas, et on n'a pas foi à ces mesures ou bien ces principes humanitaires. Donc c'est assez clé, c'est assez centre à la centre, et je crois que tous les parties prenantes, toutes les organisations, soit internationales, nationales, doivent y respecter et avoir bon foi les principes humanitaires.
Vous êtes chargé de l'accès humanitaire au Conseil norvégien pour les réfugiés. Dites-nous, quelles sont les actions que vous menez chez NRC?
Donc oui, pour moi, mon travail, c'est de vraiment garantir le déplacement de l'aide de nous envers la population. Donc, je fais ça comment? En partant sur le terrain, en bavardant avec les gens qui sont sur le terrain, pour vraiment savoir c'est quoi leurs besoins et comment on peut maintenant acheminer l'aide à ces populations-là. Donc, on travaille aussi avec les parties prenantes nécessaires pour assurer que les biens passent d'une manière efficace et en sécurité pour aller vers la population-là. On fait aussi pas mal de formations pour nos staffs, pour nos partenaires aussi, les parties prenantes, pour qu'ils y comprennent aussi tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, les principes humanitaires, pourquoi les principes humanitaires et comment on peut appliquer les principes humanitaires concrètement sur le terrain. Je travaille avec une équipe aussi, sous contrôle de notre chef de mission, pour mener toutes ces activités, briefer les gens, augmenter la capacité, la connaissance de ces principes humanitaires sur le terrain, et faire des évaluations de terrain pour voir comment on peut apporter l'aide envers la population.
Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez par rapport au respect de ces principes humanitaires?
L'acceptance n'est pas garantie. Donc, il faut y travailler pour assurer qu'on est accepté au niveau de là où on veut intervenir. Donc, en premier temps, c'est pas assez facile d'avoir la confiance de quelqu'un quand tu viens avec de l'aide. Mm-hmm. On est tous des Africains. Si on te donne cadeau, tu commences à réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce cadeau? Donc, il y a pas mal de travail pour surmonter cette challenge. Et
les défis que vous devez surmonter, oui?
Oui, oui. Cette manque de confiance. Oui. Cette manque de confiance, c'est un premier défi dans mon travail. Là où il n'y a pas cette confiance immédiate, soit au niveau de la population ou bien les parties prenantes, pour accepter l'aide et l'organisation pour amener aide, de l'aide dans ces endroits-là. Donc, ça c'est une défi principal pour moi. Et il y a pas mal des actions qu'on mène au niveau de l'organisation pour surmonter ce challenge-là.
Monsieur Augustin, vous êtes à Agir Plus. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain?
Il faut comprendre que tout de suite, avec les différents départements, voilà, Access Sécurité et tous les autres départements, lorsqu'il y a une crise, il y a un travail en amont qui est déjà fait. Parce que nous, chargés de mobilisation de ressources, écrit les propositions en fonction de la crise qui est là, après évaluation des besoins réels, parce que comme je disais tantôt, l'aide, il faut le chercher et venir pouvoir répondre à un besoin réel. Et donc, pour le travail, d'abord, il faut déjà travailler sur la présence opérationnelle, parce que la présence opérationnelle permet tout d'abord de pouvoir poser les premières bases de l'acceptance. Parce que quand vous êtes toujours là avec les communautés, ils savent que vous n'êtes pas un des leurs, vous ne vivez pas en tant que, je vais dire, personne ayant été victime de la crise. Mais lorsqu'il y a une crise, que vous êtes là permanemment, voilà, à les écouter, à échanger avec eux, à leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, de quoi avez-vous besoin et tout ça. Vous voyez qu'il y a déjà une base de la confiance qui se crée. Et donc, l'acceptance peut par la suite devenir un peu, je vais dire, très, très, très facile. Donc, pour nous, c'est d'exhorter les équipes à véritablement veiller sur, premièrement, le respect des principes humanitaires et aussi à rester le plus en contact possible avec les populations pour pouvoir être sûr que non. Nous ne sommes pas passés à côté des besoins réels, voilà, et de pouvoir identifier les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ont besoin d'assistance, parce que c'est vrai, dans une crise ou après une crise, il y a une pléthore de besoins, mais il faut que le travail soit, comme on a dit tantôt, coordonné pour être sûr que quel type de soutien à tel type de bénéficiaires, je vais dire ça ainsi. Et donc, c'est de se rassurer que tout se passe selon nos principes, que tout se suit, hein, parce que ce soit au niveau international ou local, c'est pouvoir respecter les principes et pouvoir toucher véritablement cette question d'impartialité-là, sur la base des besoins réels identifiés sur le terrain.
La même question que M. Joshua, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez par rapport au respect de ces principes humanitaires?
Oui, les difficultés ne peuvent pas manquer parce que un conflit est différent d'un autre conflit et dans le contexte est toujours, je vais dire, différent. Et donc, la première difficulté, il a dit tantôt, hein, c'est d'abord la confiance. Parce que quand il y a une crise ou une catastrophe, tous les acteurs se ruent sur la réponse à apporter. Donc tout de suite, on a dit tantôt, les populations se demandent pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas instrumentalisés? Est-ce qu'il n'y a pas une idéologie ou une idée derrière? Donc vous voyez que ça, c'est un travail déjà. C'est vrai que l'aide est gratuite, oui, mais ces populations se posent. Parce que la qualité de l'aide aussi dépend de notre comportement. Parce que vous voyez que entre elles, les populations ou les parties prenantes se communiquent et se regardent. Voilà, donc quand l'aide est fournie en dehors du respect des principes humanitaires, tout de suite vous verrez que la confiance sera rompue et donc ce pourquoi vous donnez l'aide, l'objectif ne sera pas véritablement atteint et vous verrez que ça va être difficile sur les questions de coordination et même la communication. Parce que il y a des contextes où les bénéficiaires arrivent à indexer certaines personnes par rapport au comportement ou à la manière d'adresser l'aide. Vous voyez, donc ce qui veut dire qu'il y a un risque sur ce côté-là sur lequel il faut véritablement veiller pour pouvoir être sûr qu'on adresse l'aide en respectant primo les principes qui sont au niveau international, mais aussi les directives internes des organisations. Parce que ça s'aligne toujours sur la volonté d'adresser l'aide la plus efficace possible et de sauver le maximum, je vais dire, toutes les vies. Donc, en termes de défis, c'est souvent la confiance, mais la compréhension même du mandat des organisations. Parce que toujours, toutes les parties prenantes, souvent, n'ont pas peut-être la même compréhension. Donc, cela peut poser un frein. Voilà, vous voyez que l'aspect le plus, je veux dire, l'un des aspects plausibles qu'on a vécu, c'était par rapport à l'aide en nature. Notre contexte sahélien, vous le savez. Donc, il y avait la difficulté d'être sûr que est-ce que l'argent que nous donnons aux bénéficiaires pour les soutenir n'entretient pas de façon indirecte ce que nous vivons dans notre région. Donc, dans certains contrées, on avait demandé d'interdire, par exemple, l'aide. En cash, je vais dire. Alors que pour les acteurs humanitaires, c'était une forme d'assistance qui permettrait de véritablement respecter la dignité de ces populations-là. Donc vous voyez que quand ce n'est pas bien compris ou bien canalisé, cette question de confiance-là disparaît et la réticence des autorités aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les acteurs humanitaires n'entretiennent même pas ce qu'on veut, je vais dire, réduire? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui restent sans réponse réelle.
Oui, qu'est-ce que vous essayez de faire pour faire comprendre que ce n'est pas le cas?
Alors, je vais dire au Niger, je ne pense pas qu'il y ait interdiction de cette forme d'appui. Mais dans d'autres pays, il y en a eu. Et étant donné que nous partageons les leçons entre acteurs humanitaires des différents pays, c'est juste de pouvoir expliquer la nature de notre intervention basée sur les principes humanitaires et de se rassurer aussi avec les différentes, les différentes politiques, les différentes stratégies internes que nous respectons ce que l'autorité, parce que souvenez-vous que nous venons en appui à l'autorité du pays. Donc, il a le droit de regard sur ce que nous faisons pour être sûr, comme je disais tantôt, que nous n'entrerons pas de façon indirecte les conflits. Et donc, c'est de les sensibiliser et c'est de les permettre d'avoir le droit de contrôle aussi. Parce que nous travaillons avec eux, mais souvent l'information n'est pas bien comprise. On a utilisé le terme de service technique qui représente l'État. Ils sont impliqués dans toutes les actions que nous menons. Mais si vous voyez qu'au niveau un peu plus élevé, ces idées naissent, ce qui veut dire qu'ils veulent être véritablement associés sur toute la ligne de l'intervention et être sûr que le besoin qu'ils ont identifié comme étant le besoin du pays, c'est ce besoin-là que nous prenons en charge en respectant les principes que nous avons dit tantôt.
Monsieur Joshua, il arrive parfois que ces populations refusent la présence des humanitaires. Selon vous, pourquoi et quel impact est-ce que ça peut avoir sur vous, vos actions?
Oui, tout à fait. Et ça c'est lié à cette l'absence, si on peut dire, de principes humanitaires. Tant qu'il y a l'absence de principes humanitaires, oui, la population à un moment donné pourrait vous dire de quitter l'endroit. Ça impacte encore la sécurité de personnes, de personnel de notre organisation, de notre structure, mais aussi il y a des personnes qui souffrent dans ces endroits qui n'auront pas l'aide. Donc c'est ça l'impact direct. Si à un moment donné la population décide qu'elle ne veut pas, maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ce genre de situation? C'est de des actes de plaidoyer, des actes d'engagement avec la population. On fait aujourd'hui une émission ici chez Studio Kalangu qui nous permet d'apporter notre voix sur les principes humanitaires. Comme je l'ai dit aussi, on fait pas mal de formations aux acteurs et aussi la population pour sensibiliser sur les principes humanitaires. Donc, c'est des actions comme ça qu'on fait pour essayer de recadrer et aussi faire face à ces genres de situations.
Et si finalement ils vous acceptent, quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en retirer?
Les bénéfices sont énormes. Les bénéfices sont énormes. Il y a cette collaboration avec nous qui apporte de l'aide humanitaire au sein de cette population là. Tout le monde, y compris les parties prenantes, on est sûr que c'est la population qui est au centre de leur politique, leur ligne directrice et tout. Donc, comme mon collègue vient de le dire, on est là pour appuyer et apporter ce qu'on peut apporter. Et ça, c'est à la bénéfice de la population. La population est au centre de toutes nos activités et c'est à eux de vraiment bénéficier de l'aide humanitaire qu'on amène.
Monsieur Augustin, oui, quels sont les droits et devoirs des organisations humanitaires, tout comme les autorités selon le droit international humanitaire?
Toutes les parties prenantes au conflit, que ce soit les humanitaires, que ce soit les autorités ou, je vais dire, les autres qui sont dans le conflit, sont régies par le droit humanitaire international. Alors, pour ce qui est des acteurs humanitaires, nous, notre droit d'abord, c'est d'offrir, je vais dire, notre aide aux populations vulnérables de manière impartiale, comme je disais tantôt, sur la base des besoins réels évalués. Ça, c'est le droit, je vais dire, premier. Et en termes de devoir aussi, c'est dans d'autres contextes, on a dit le consentement éclairé. Donc, nous devons recueillir le consentement des parties en conflit parce que en termes d'accès ou en termes d'acceptance même de la prestation, il faut qu'on recueille le consentement. Oui, vous pouvez venir intervenir dans notre communauté où on n'a pas besoin de vous. Vous avez soulevé cela un peu plus haut. S'ils refusent, alors que si on arrive à les expliquer, ça, c'est notre devoir. Vous voyez que ils sont d'accord que l'aide soit fournie et donc ils vont accepter que nous adressons l'aide au niveau de leur territoire. Ça, c'est pour les acteurs humanitaires. Et pour ce qui est des autres parties, normalement, nous devons ont le droit de regard aussi et puis sur l'intervention que nous faisons en tant qu'acteurs humanitaires. Je disais tantôt, dans l'optique de la négociation de l'accès, les parties en conflit ont le droit aussi de regarder ce que nous faisons. Comme j'ai pris l'exemple de est-ce que l'aide n'entretient pas de façon indirecte le conflit. Donc, quand selon le droit, ils savent ce que nous voulons faire en tant qu'acteur humanitaire. Donc, si les principes mentionnés ici sont respectés, vous voyez tout de suite qu'il n'y aura pas de problème en termes de droit. Mais en termes de devoir aussi, chaque partie du conflit aussi a l'obligation de satisfaire les besoins des populations. Parce que quand ils ont le contrôle sur un territoire, vous voyez qu'ils ont aussi le devoir de préserver la vie de ces populations-là. Ça, c'est un devoir qui relève du droit humanitaire international. Souvent, ce qui est un peu mal compris ou ce qu'ils veulent contrôler, c'est nous, en tant qu'humanitaire, qu'est-ce qu'on va faire? D'où, je l'ai dit un peu dans notre devoir, c'est de leur expliquer clairement que nous ne sommes pas partis du conflit au regard des principes humanitaires. Notre rôle, c'est porter assistance aux personnes qui souffrent. Ce qui veut dire que toutes nos actions sont contrôlées, y compris par eux, parce qu'ils savent qu'on ne vient pas de façon indirecte en griffe déranger leur territoire. Nous, c'est juste sauver la vie des personnes, parce que la vie en griffe, selon les droits humanitaires internationaux aussi, est sacrée, et tout le monde doit préserver la vie de chaque personne qui existe sur la terre.
Et quelle est votre conviction en matière de protection humanitaire?
Ma conviction en matière de protection humanitaire. Alors, pour nous, humanitaires, déjà, il y a trois, je vais dire ça ici, un principe de protection déjà. On a tablé beaucoup sur le premier qui est l'acceptance, parce que c'est une forme de protection, je veux dire, la plus sûre pour les acteurs humanitaires. Mais il y a aussi la protection même, parce qu'en cas de conflit, souvent, vous verrez que s'il n'y a pas d'acceptance, donc on doit se protéger aussi s'il y a un conflit. en tant qu'accueil humanitaire. Et aussi, on passe souvent aussi jusqu'à la dissuasion. C'est les trois principes de protection qui existent. Mais les acteurs humanitaires sont plus focus sur l'acceptance. Parce que c'est ça qui permet, entre autres, de s'aligner même sur les différents principes. Parce qu'en tant qu'humanitaire, si tu te dis neutre, si tu te dis tu viens sauver les vies, si tu te dis tu n'as pas de camp ou tu n'as pas de personne identifiée dans le conflit que tu viens aider spécifiquement au détriment des autres, si tu te dis que tu n'es pas là pour tout ça, donc le principe de sécurité de la protection ne va pas s'appliquer. Tu ne vas pas venir monter tes murs en R plus, c'est en R plus 1, tu viens faire en R plus 3, ce qui veut dire que toi-même, tu ne te sens pas en sécurité. Donc déjà, vous voyez que la confiance est un peu, peut être mise en jeu selon le regard des personnes qui ne comprennent pas. Voilà. Ou on voit que tout de suite, il y a un conflit, tu te dis acteur humanitaire, on voit qu'il y a des chars qui sont devant ton bureau, qui protègent tes locaux et tout ça. S'ils voient ça, ça peut se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui se disent être, je vais dire, neutre, voilà, impartial, je vais dire indépendant et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sentent menacés? Ça peut créer beaucoup, beaucoup d'interrogations. D'où?
Qu'est-ce qui doit être fait dans ce cas?
L'acceptance, nous avons tous dit, faut respecter les principes humanitaires, il faut être en contact avec eux. Tout ce que tu fais est transparent. D'accord. Et c'est basé sur la seule base de tes besoins réels identifiés.
On termine avec vous, Monsieur Joshua. Quelle est votre conviction en matière de protection humanitaire?
Oui, c'est comme mon collègue l'a dit. Hein. Tout d'abord, l'acceptance. Et, tant qu'il n'y a pas l'acceptance, maintenant on passe à la protection. Et tant qu'il n'y a pas la protection, on passe à la dissuasion. Donc, si on arrive à bien faire tout ce qui est lié avec l'acceptance, tout ce qui est l'engagement avec la communauté, d'opérer d'une manière transparent, respecter la dignité de la population, on arrive à avoir l'accès, on est mieux protégé comme ça. Mais dès qu'on on doit faire recours à la protection ou même la dissuasion, ça devient un autre cas. Et on essaie de vraiment éviter ces endroits, la protection et la dissuasion, et on se penche vers l'acceptance. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est garanti. On y travaille, on continue de y travailler. Donc, à un moment donné, on peut avoir plus d'acceptance. Et à un moment donné, on peut avoir moins d'acceptance. Mais on continue à y travailler pour aller vers l'acceptance.
En résumé de ce forum, les principes humanitaires gouvernent l'action humanitaire en situation de crise, que celle-ci soit causée par des conflits armés ou des risques naturels. L'adhésion aux principes humanitaires facilite l'accès humanitaire, l'acceptation de l'action humanitaire et aide le personnel humanitaire à faire son travail. Selon nos invités, l'aide humanitaire n'est influencée que par le fait de veiller à ce qu'elle puisse être acheminée jusqu'aux populations affectées par les crises, souvent dans un environnement sécuritaire complexe. La réponse humanitaire continuera de respecter le principe de ne pas aggraver les dommages subis par les populations et que la réponse des humanitaires doit tenir compte des conflits et faire le nécessaire pour ne pas, sans le vouloir, contribuer à ce que les conflits s'enveniment. C'est ici que se termine ce forum. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à vous, chers invités, pour votre disponibilité d'avoir honoré notre invitation. Rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de nos 52 radios partenaires pour un nouveau numéro du forum du studio Kalangu. Au revoir.